retour du Premier ministre et des ministres, je pense que les mesures seront fortes. Les déplacements privés, les déplacements hormis les quelques courses, hormis amener les enfants à l'école, je pense qu'ils vont être vraiment extrêmement limités.
Déplacements limités, mesures fortes, mais à quel point les partenaires sociaux ont été consultés par le gouvernement entre deux conseils de défense? Emmanuel Macron lèvera le suspense ce soir. Selon les informations d'Europe 1, le chef de l'État va annoncer un reconfinement général. Alors pourquoi un reconfinement total plutôt que local? Contrairement à la première vague, cette fois le virus concerne l'ensemble du territoire, les zones rurales notamment. Nous serons dans un petit village d'Alsace. Dans ce journal, les conséquences de la crise sur la restauration collective. Sodexo va supprimer plus de 2000 emplois en France. Et puis le ton monte entre Ankara et Paris. À Istanbul, les habitants sont très remontés contre le président français.
Il sera d'ailleurs question des relations franco-turques avec mon invité inattendu, la réalisatrice du film Mustang. Elle est franco-turque. Et puis on retrouvera Fanny Agostini, notre planète, qui va nous apprendre que la fourrure écolo, la fausse fourrure, bah, elle n'est pas vraiment plus écolo que la vraie. Bienvenue à vous, il est 6h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les Français seront fixés à 20h, mais c'est bien le reconfinement généralisé qui se rapproche. Chefs de partis politiques, partenaires sociaux, tous ont été reçus hier soir par Jean Castex ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Une consultation entre deux conseils de défense et avant l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir.
Le président de la CFTC, Cyril Chabanier, faisait partie de la délégation reçue à Matignon. Selon lui, le ton du Premier ministre laisse présager des annonces fortes de la part du chef de l'État.
Je pense qu'on va aller assez rapidement vers des déplacements extrêmement limités. Je pense que l'activité économique ne s'arrêtera pas, en tout cas pas pour toutes les activités qui ne reçoivent pas du public. Il y a une vraie interrogation sur les activités qui vont recevoir du public. Les déplacements privés, les déplacements hormis les quelques courses, hormis amener les enfants à l'école, je pense qu'ils vont être vraiment extrêmement limités. Et j'ai bien peur que les week-ends, on soit simplement autorisé à avoir quelques minutes de respiration à l'extérieur. Où, voilà. Mais les mesures, et par rapport au ton du Premier ministre et des ministres, je pense que les mesures seront fortes.
Le numéro 1 de la CFTC, Cyril Chabanier avec Olivier Samin. Emmanuel Macron réunit donc un second conseil de défense ce matin, mais il n'y a plus tellement de suspense. On se dirige vers un reconfinement total de la population. D'ailleurs, Louis Dragnel, il ne s'agit pas d'une décision de dernière minute.
C'est dans le plus grand secret dimanche soir qu'Emmanuel Macron a pris sa décision. Autrement dit, 36 heures avant la première réunion du Conseil de défense qui s'est tenue hier à l'Élysée. Un reconfinement généralisé pour une période de 4 semaines reconductibles, le scénario que tout le monde redoutait. La seule solution, en vérité, pour maîtriser efficacement cette nouvelle vague épidémique, comme me l'a confié un conseiller de l'exécutif. Une source qui souligne d'ailleurs qu'un durcissement du couvre-feu n'aurait pas permis un freinage suffisant du virus dans un contexte de saturation totale des hôpitaux dès la mi-novembre. Autre argument qui a convaincu le président, un confinement localisé aurait été, je cite, « une incohérence épidémiologique car tout le territoire est touché de façon homogène ». Chose exceptionnelle, hier après-midi, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et le directeur de cabinet du Premier ministre, Nicolas Revel, ont organisé une réunion interministérielle d'urgence, et pas n'importe où, dans le bunker souterrain de la place Beauvau. L'objectif était d'annoncer ces mesures aux plus hauts responsables des différentes administrations. Le message a été clair. Il faut que ça fonctionne pour avoir une chance de sauver Noël.
Les informations de Louis Dragnel du service politique d'Europe 1.
Alors pourquoi instaurer un reconfinement général et non pas local? On a beaucoup parlé de Paris, de Lille, Marseille, des métropoles particulièrement touchées par l'épidémie ces dernières semaines. Mais les derniers chiffres des autorités sanitaires montrent que le virus circule en réalité sur tout le territoire.
Reportage dans la campagne alsacienne où le taux d'incidence explose même dans des villages parfois très isolés. Arthur Mbachet.
Grendelbruch, son église, sa supérette, son taux d'incidence supérieur à 1000.
C'est la merde. Vous pouvez être paumé là sur votre rocher à méditer en haut, ça peut vous toucher aussi.
Voilà, nous sommes une petite commune, hein, village de montagne. On devrait un peu être à l'écart de tout ça.
Ben moi j'ai des amis qui sont, oui, effectivement, qui sont positifs.
Chez le généraliste du village de Dr Stab, 0 cas du 11 mai, la fin du confinement, à il y a 10 jours, 40 cas. Depuis 10 jours.
Si vous êtes symptomatique, si vous avez des signes digestifs et que vous habitez actuellement dans le village, dans votre rue, il y en a plein. Donc, préfère vous conseiller de faire les tests tout de suite. Ok, allez, au revoir. Quand on voit la contagiosité de cette maladie, eh ben, obligatoirement, tu la retrouves aussi bien à la ville qu'à la campagne.
Ville, campagne, tous égaux face au virus, pas tous égaux face au confinement qui peut-être se profile.
Ben, d'abord parce que le paysage, hein, je plains les gens qui ont un appartement, 3 pièces, pas de balcon, un chien et 3 enfants.
On a la chance d'avoir tous plus ou moins des maisons. Mmh. Hein, donc on peut sortir, on a des extérieurs.
Au pied du massif du Champ du Feu, dans la vallée de la Bruche, Arthur Henbaché, Europe 1.
Plus de 2900 malades du Covid sont hospitalisés en réanimation. La moitié des lits sont désormais occupés. La France enregistre son pire bilan quotidien depuis avril avec 523 morts enregistrés sur la seule journée d'hier.
Et la crise sanitaire qui continue de plomber l'économie et l'emploi dans la restauration collective notamment.
Après Elior au début du mois d'octobre, Sodexo annonce à son tour la suppression de 2083 postes en France. Pendant le confinement, les cantines d'entreprise ont été désertées et elles n'ont jamais pu refaire le plein, Emmanuel Duteil.
En effet, nos habitudes de consommation ont fortement changé pour le déjeuner au travail. La raison est simple, le télétravail s'est développé ces derniers mois dans les grandes entreprises. On est passé d'une moyenne d'un peu plus d'un jour à environ deux jours de télétravail. Et ça, mine de rien, ça change tout. Il faut s'y ajouter les normes sanitaires et son lot de places condamnées. Et puis la peur de certains de déjeuner à plusieurs. Du coup, les cantines se sont vidées dans les entreprises de service. C'est là où le télétravail est le plus développé. La fréquentation a chuté des deux tiers dans les cantines géré par Sodexo. Et les grands acteurs du secteur ne s'attendent pas, dans tous les cas, à un retour à la normale. Avec cette épidémie, nos habitudes vont évoluer sur le long terme, là encore, principalement à cause du télétravail, qui pourrait bien devenir une pratique pérenne. Ce qui oblige Sodexo et les autres géants de la restauration collective à inventer de nouveaux modèles, comme des paniers repas ou des frigos connectés dans lesquels on pourrait trouver nos repas. Mais voilà, pour tout cela, il faut moins de monde sur site, d'où ces plans sociaux.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Et puis l'Allemagne s'apprête aussi à mettre en place de nouvelles restrictions pour combattre l'épidémie. Réunion de crise aujourd'hui entre le gouvernement d'Angela Merkel et les dirigeants régionaux. La chancelière allemande pourrait décider la fermeture des bars et restaurants ainsi que l'interdiction des rassemblements publics.
Europe 1.
Dans un instant, on part à Istanbul. Après ses propos sur les caricatures, Emmanuel Macron n'est plus en odeur de sainteté dans la capitale turque. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 5-7, Simon Rubin.
6h09, la suite du journal Sophie Echen. On va partir à Istanbul, contrairement à ce que je disais avant la pub, qui n'est pas la capitale de la Turquie. C'est Ankara, mea culpa, Sophie.
La tension est toujours vive entre la France et la Turquie. Les propos d'Emmanuel Macron sur les caricatures de Mahomet ne passent pas. Ce n'est pas une crise politique, mais une guerre de religion, estiment les soutiens du président Erdogan à Istanbul. Reportage de notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini.
En temps normal, Kemal n'interromprait jamais une partie de Rami. S'il le fait cette fois et réclame le micro, c'est parce qu'il tient à donner sa lecture de la passe d'armes Erdogan-Macron.
Il n'est absolument pas question de politique ici. C'est une question de religion. Presque une guerre de religion. Et je suis persuadé que ce qui anime notre président, ce ne sont pas des raisons politiques. Uniquement des motifs religieux.
Autour de la table, chacun triture nerveusement ses jetons. Hussein garde son calme et relance le débat.
Notre religion a été insultée. Cette religion, c'est notre plus grande richesse. Le président français a fait une erreur, une grosse gaffe, et il ne mérite pas notre pardon. Nous, on doit tout faire pour défendre l'islam.
La partie de Rami semble gâchée, elle s'achève avec une remarque pleine d'amertume. Nous n'en voulons pas aux Français, seulement à leur président. Istanbul, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Et les relations franco-turques, on va en parler avec mon invitée inattendue, Deniz Gamze Erguven, réalisatrice notamment du film Mustang. Elle est franco-turque et on parlera de la Turquie juste après le journal des sports. Merci Sophie Echen. Prochain rendez-vous avec l'info, Jérôme Lacroix, ce sera à 6h30.